C'est dû à tous ces procédés qui tiennent souvent d'autres signes du zodiaque, notamment de la Vierge. Mais ces procédures qui assurent la prolongation inaccoutumée, quasi miraculeuse, de l'existence d'un être âgé, ayant apparemment dépassé le stade d'être utile aux autres et à soi-même. C'est là la raison profonde, la comptabilité de ça, c'est dans le signe du scorpion. C'est le scorpion qui est intéressé de premier rang, au premier chef, à ce que va durer la vie de chacun de nous. Parce que c'est l'espèce qui va en profiter. On a dit souvent, l'espèce se fout de l'individu. Bon, ça n'est pas vrai, ça ne peut pas être vrai. C'est une contradiction. Mais c'est bien l'espèce qui a sa politique, et c'est une politique dont chacun de nous, nous passons notre vie à nous demander qu'est-ce qu'est le bien-être. D'où le visage bandé du destin. Quand les gens viennent vous demander ou se jettent sur les magazines pour savoir qu'est-ce qui les attend l'année prochaine, qu'est-ce qui les attend dans leur thème, mais qu'est-ce que c'est autre, si ce n'est pas autre chose que la confession, ils ne savent pas ce que l'espèce humaine entend faire d'eux. On dira, et ça ne sera pas faux, on dira Dieu, on dira les forces protectrices du ciel, ce qu'ils veulent d'eux. On dira Dieu, on dira tout ça. Parce que alors là, maintenant, nous appliquons les intérêts universels, la stratégie des intérêts globaux. Mais ces intérêts globaux, par délégation, dictent aussi et font dicter à l'espèce humaine, au génie de l'espèce, des conditions d'opération et qu'elle applique. Elle, le génie de l'espèce humaine, appliqué à chacun de nous, selon notre position dans l'évolution, selon notre stade. Nous sommes tous des soldats de l'espèce. Et nous sommes placés chacun sur notre front de bataille. Tant et si bien que si nous recevons, à cause de cette solidarité qui ne peut jamais se démentir, c'est pour ça que nous recevons par l'intermédiaire de la médiumnité sous toutes ses formes, et par l'intermédiaire de l'inspiration sous toutes ses formes, nous recevons un appui qui nous vient d'où ? Qui nous vient plus ou moins constamment de l'espèce. C'est la voix de l'espèce qui parle toujours sous la forme des membres de l'espèce, de notre filiation personnelle, de notre famille spirituelle et psychique, et qui nous doit cela, puisque nous sommes une partie d'eux, et que nous sommes, et qu'ils sont eux une partie de nous. C'est tout le mystère de la médiumnité, ça. C'est tout le mystère de la clairvoyance, ça. C'est tout le mystère de l'inspiration. C'est tout le mystère de l'apparition des saints, de la Vierge, de Jésus, et enfin de tous les grands archétypes que l'humanité a réussi à distinguer dans les horizons de son histoire. Autre chose, la mortalité infantile, presque disparue aujourd'hui. Quand on pense qu'il y a 150 ans, 9 enfants nouveau-nés mouraient sur 10. Aujourd'hui, c'est même l'inverse qui est vrai. Cela est dû à la prophylaxie merveilleuse, aux toutes les découvertes médicales et autres faites depuis un siècle. Mais ça, ces découvertes médicales ont été inspirées et poursuivies à l'origine par le scorpion. Et voilà pourquoi le signe du scorpion est un signe médical par excellence. C'est le signe des grands médecins et des grands chercheurs en médecine. Quand ils cherchent, quand le médecin est un scorpion, et qu'il a encore ça par surcroît sur le milieu du ciel, et qu'il a sa part surcroît dans sa huitième maison, qui est la maison homologue du scorpion, comptez qu'il est poussé par une stratégie, par des forces extraordinaires, avec son Uranus, et là, lui servant constamment de point de transmission entre le génie de l'espèce qui vient animer ce membre pour que lui, à son tour, secoure d'autres membres de l'espèce qui sont ses clients. C'est aussi simple que ça. Pas de mystère. Travaillez les thèmes astrologiques et vous aurez compris ça. Maintenant, je voudrais encore dire quelques mots sur les origines maintenant du scorpion. Son point de départ. Pour comprendre le scorpion, immédiatement penchez-vous sur la balance. Oh, bonté divine, heureusement la balance c'est une chose simple, c'est une chose au grand jour, en soleil la balance. Signe d'air, d'ailleurs, un signe d'air vénusien, c'est un signe, d'ailleurs c'est le signe par excellence où l'homme prend conscience de lui-même, le signe de la balance lui fait faire cette conscience, lui fait prendre cette conscience de lui-même par l'autre, son vis-à-vis, son complémentaire, son opposé, sa polarité, l'un des deux sera électrique, l'autre sera magnétique, c'est fatal, c'est comme ça, c'est la balance. Ils sont deux électriques, ça fera la guerre entre eux. Si ces deux magnétiques, il ne se passera pas grand-chose, mais si c'est la polarité des deux, ça va être la fameuse conjugaison de la balance du fameux couple, et ça va être le commencement de cette entité sociale qui fait que deux deviennent un, et c'est ce un qui vraiment intéresse maintenant le génie de l'espèce dans le scorpion. Alors, comment ? Par la balance, deux sont devenus un. Dans quelle mesure, surtout, le sont-ils devenus? Et cela qui va être maintenant transmis de la balance, va être passé de la balance au scorpion. Et cela qui va maintenant constituer une réserve dans le scorpion, dont vont se servir, une réserve dont va se servir les deux membres du couple. Rien ne se passe dans notre contact avec notre prochain. Car la balance, n'est-ce pas, c'est le contact avec l'autre, donc avec le prochain. Il est vraiment votre prochain dans la balance. Il n'est nulle part ailleurs, il est dans la balance votre prochain. Là, c'est vraiment l'état de crise, c'est l'événement. Que faites-vous de cet autre? Ce n'est pas seulement le mari, la femme, c'est tous les autres. C'est tout ce qui est l'autre en face de vous, en face de ce moi qui, à un moment donné, s'est cru, comment dirais-je, monolithique et exclusif. Pas du tout. Alors, voilà. Le voilà en face de l'autre. Que fait-il de l'autre? Qu'est-ce que l'autre fait de lui? Il faut un contact pour se battre. Il faut un contact pour s'aimer. Il faut un contact pour se découvrir réciproquement. La première des choses que fera la balance, c'est la guerre. C'est le signe de guerre, la balance. C'est le signe de la tuerie. En astrologie mondiale, la septième maison d'une nation, c'est la maison de l'ennemi, de l'adversaire. On ne peut tuer quelqu'un que par la balance. La haine se forme et se manifeste dans la balance et se réalise dans la balance en tuant, en scalpant l'autre. Toute la gamme des possibilités d'un membre de l'espèce humaine va maintenant se déployer dans la balance. C'est là. Ah. Alors, vous aurez, je résume ceci, vous aurez, ou bien, qu'est-ce que vous faites de l'autre, ou bien, qu'est-ce qu'il fait de vous? Est-ce qu'il vous exploite? Est-ce que vous êtes la brebis tondue? Est-ce que vous êtes l'écorché ou l'écorcheur? Est-ce que vous êtes l'esclave ou le meneur d'esclaves? Est-ce que vous êtes le parasité ou le parasitant? Tout ça, balance. Et le signe de la balance, tout le temps, pèse cela. Et dans quel intérêt pèse-t-elle ça? Par ordre du scorpion. Il dit, maintenant, nous allons voir ce qui est arrivé quand ce phénomène de réciprocité balance a joué un certain temps. Alors maintenant, c'est la justice immanente qui travaille à travers ça, et cette justice immanente, oh, elle n'est pas pressée de nous donner sa réponse dans la balance, c'est-à-dire pendant qu'on est vivant. Non, elle vous le donnera dans l'invisible, car le scorpion, c'est le signe même de l'invisible, puisqu'il est en même temps le signe de l'inconscient. Alors là, la justice divine s'empare de vos actes, la façon dont vous avez traité l'autre, la façon dont il vous a traité. Et c'est là que va se faire le règlement des comptes. Ce n'est pas pour rien qu'il y a ce fameux texte qui dit « À la mort de quelqu'un, et ses œuvres le suivent. » Ah, comme elles le suivent. Elles le suivent là où il est. Et elles le poursuivent. Ben, rien n'est fini avec la mort, mais rien. Dire que tout est fini avec la mort, qu'on n'emporte rien avec soi et tout ce qu'on fait ici, bien, et qu'on en a fait pour son profit personnel, eh bien, c'était ça qui était intelligent. C'est tout simplement la preuve éclatante qu'on est parfaitement inconscient de l'existence du scorpion. De tout ce qu'il y a d'inconscient en nous-mêmes. On en était parfaitement inconscient. Et alors, c'est la découverte que précisément, il y a une suite, une conséquence, et que là, c'est formidable. Vous avez aimé, vous vous êtes dévoué à un être qui méritait ce dévouement. Ça, c'était déjà partie de la loi du scorpion pour vous et pour lui et pour vous. Car c'est dans le scorpion que se décide le moment de votre réincarnation et où allez-vous réincarner, dans quelle filiation familiale vous allez entrer pour la continuer, pour la prolonger, pour prolonger dans la chaîne. Bien. Alors sachez donc que dans le scorpion, vous allez maintenant, à votre insu, avoir la continuation de tout ce qui a commencé dans la balance. De la justice. Celui qui est mort, disons qu'il est mort, donc, celui qui est maintenant entré dans l'invisible de cette vie, il est entré dans le monde qui est celui par quoi l'on entre par le scorpion. Il est là dans le monde du scorpion. Il y est aussi vivant que vous, et même davantage. Il dispose par moment de pouvoir que vous n'avez pas dans la balance. Sur Terre, vous êtes dans la balance. Mais lui, il est dans le scorpion. Et il va se servir maintenant de tous les autres signes du zodiaque, comme les dérivés du scorpion pris comme ascendant, comme première maison. Il va s'en servir, celui-là, pour faire ce qu'il peut pour vous aider, vous inspirer, vous protéger. Vos parents qui reviennent à vous par le rêve, qui reviennent à vous par l'inspiration, qui reviennent à vous par apparition, ceux qui reviennent à vous par toutes les formes de la médiumnité. Mais tout ça, est dû à une obligation qu'ils vous doivent derrière l'amour qu'ils ont, et une obligation que vous avez, et un droit que vous avez. C'est un échange de droits, de couronnes, et quelquefois, c'est des couronnes d'épines, parce que quand vous êtes, quand celui auquel vous avez fait un mal épouvantable, celui que vous avez écorché meurt, croyez-vous que c'est fini entre vous? Ça ne fait, mes chers amis, que commencer. Ça ne fait que commencer. Il y a quelque chose qui commence dès le moment de la mort de l'un de ceux qui sont liés dans la balance. Alors, ce qui peut commencer, c'est de la part du mort, le regret, le remords, le scrupule, les pleurs et le besoin de réparation. Ou alors, ce qui peut commencer, donc se continuer, alors c'est la haine de vous. La haine de vous qui avez exploité. Alors, c'est le besoin de vengeance qui poursuit, et vous êtes poursuivi par une force mystérieuse que vous ne pouvez pas saisir parce que c'est dans l'inconscient de vous-même. Force qui vise à compenser votre injustice en rétablissant la balance au profit de l'autre et à vos dépens. et à vos dépens. C'est ce qu'on appelle en anglais « having the skeleton in the closet », avoir le squelette dans l'armoire. Combien de gens ont un squelette dans leur armoire? Et dans le monde de la politique, tout le monde sait que l'une des raisons de la force d'un certain politicien, dont on ne comprend pas pourquoi il reste en place, c'est parce qu'il connaît trop bien les squelettes dans les armoires des autres politiciens. Voilà. Et vous montrez ça encore, et maintenant j'arrive au Neptune, et vous montrez ça encore une dernière fois, ce qui se passe dans le scorpion, que nous ne connaissons pas, mais qui s'y passe, et c'est la Bible qui nous le raconte, c'est le Nouveau Testament. Vous avez la fameuse conversation entre Lazare, le pauvre Lazare, et le mauvais riche. Ah, le mauvais riche, l'Harpagon, eh bien, lui, il ne donnait rien à personne, au contraire, il accumulait. Il aurait encore pris au prouve ce qu'il avait, mais dans le scorpion, le voilà découvrant que c'est pas ce que l'espèce a voulu de lui. Que c'est pas la loi, l'ordre cosmique que l'espèce obéit et qu'elle reproduit. Ah, mais non, c'est pas ça. Alors là, il demande à Lazare de prier pour lui. Voilà. Eh bien, il y a eu dans notre histoire, je suis persuadé, dans l'immensité de l'histoire de notre soleil individuel, au cours des âges, il y a eu des moments où, parmi ceux dont nous étions les membres, parmi ceux dans l'invisible dont nous faisions partie et qui faisaient partie de notre scorpion, il y avait ceux qui étaient Lazare et il y avait le mauvais riche. Autrement dit, il y a des conflits intérieurs auxquels, comme membres de cette collectivité, nous participons peu ou prou. C'est une des raisons de certains mystères, de certains moments contradictoires de notre propre nature. C'est certainement l'une des raisons. Pensez donc à l'histoire de Lazare et du mauvais. Ceci ne se passe pas sur la terre. Ça ne se passe pas devant la justice humaine. Ça ne prend pas des vivants à témoin. Ceci, c'est dans l'autre monde. Et c'était incidemment le texte choisi par le pasteur bien connu ici, Marc Bögner, quand il voulait expliquer dans la conférence sur la survie au musée Guimet il y a quelques années, et qu'il voulait expliquer comment l'Église réformée concevait la vie, la survie, la vie après la mort, et il ne s'est pas commis, il s'est simplement restreint au texte biblique, mais il a cité le texte de Lazare et du mauvais riche pour montrer qu'après tout, la Bible ne voulait pas dire que les morts dormaient jusqu'à la dernière trompette, et que les morts étaient évidemment bien vivants et bien conscients d'eux-mêmes et capables de communiquer entre eux, la preuve, Lazare et le mauvais riche. N'est-ce pas ? Il montrait incidemment les contradictions inévitables que nous trouvons dans le Nouveau Testament comme dans l'Ancien. Et maintenant que je crois vous avoir donné quelques idées vraiment vitales sur le scorpion, regardons Neptune. Alors Neptune est dans le scorpion. Dans ce manuel de première initiation à l'astrologie, nous avons écrit ceci sur Neptune. Je commencerai la définition de Neptune avec ceci. Neptune, qu'est-ce que c'est que Neptune? Le sommet d'un triangle équilatéral. Vous entendez un triangle équilatéral? Eh bien, son sommet est toujours Neptune, quelle que soit la grandeur du triangle. Son graphisme l'indique même. Le sommet, c'est le 1. Il est l'unité à laquelle se rallient tous les multiples représentés par la base du triangle. Donc Neptune, sommet d'un triangle équilatéral, est le point de ralliement. Il est donc le sauveur de tout ce qui est compris à l'intérieur de ce triangle. Donc ici, nous allons pouvoir dire que, par équivalence, la Vierge Marie, plus exactement la Mère divine universelle, de tous les hommes, et je dirais de toutes les espèces, et de toute la terre, est le sommet d'un triangle équilatéral dans lequel se trouve tout notre univers. Mais à condition que ce triangle soit vraiment équilatéral. Et c'est exactement à quoi travaillent les forces d'ordre dans le cosmos, de permettre que tout devienne triangle équilatéral. Autrement dit, le sommet du triangle équilatéral est le point de ralliement suprême de tout ce qui converge à l'unité. À mesure que notre Neptune à nous se développe, il nous met dans un état de communion avec l'essence même des choses. C'est donc par Neptune, et par Neptune uniquement, que nous nous rapprochons de la chose en soi, de l'essence de toute vie. Tout est uni en Neptune. Il y a union et par la force des choses, il y a communion. Par analogie, comprenons bien aussi que toute synthèse de synthèse correspond à Neptune, à sa place dans le monde et à sa place dans l'homme. Nous avons tous, dans les profondeurs de notre inconscient, cette synthèse de tous nos acquis, de ce que nous avons assimilé. Elle correspond donc au génie en nous. Eh bien, voilà la première définition que je donne par écrit ici de Neptune, et cela continue maintenant, l'élabore un petit peu plus, et en même temps, je vais introduire la fonction de Pluton dans le scorpion. Mais en contraste avec la fonction neptunienne dans le scorpion. Alors, mes chers amis, Neptune dans le scorpion, c'est l'espérance. Pour tous les soleils qui sont dans les nuages, pour tous les soleils qui sont dans l'ombre, les soleils qui sont dans les ténèbres, pour tous les soleils invisibles de l'espèce humaine, qui n'ont pas encore atteint l'équilibre, qui n'ont pas encore atteint la capacité de fonctionner normalement comme un membre de leur espèce, frère d'un frère, et ainsi de suite. Pour tous ceux-là, ils cherchent la lumière. Or, ils la cherchent en tout cas. Alors, Neptune, c'est l'étoile qui brille et qui leur permet de discerner la voie par laquelle il peut progresser. C'est l'espérance, c'est l'oreille de la jungle dans laquelle il se trouve, dans le grouillement des forces contradictoires à l'œuvre dans le scorpion. Puisque toutes les passions humaines déchaînées dans la balance se continuent et vont maintenant chercher leur rétribution dans le scorpion, puisqu'en même temps, toutes les beautés commencées dans la balance vont aussi trouver leur couronnement dans le scorpion. Neptune va, dans le scorpion, donner la béatitude d'un nouveau ciel à des millions d'âmes dans l'invisible, comme dans le monde visible. Mais en même temps, il va révéler une voie de salut pour les âmes qui désespérément l'appellent et n'arrive pas à le trouver. Comme c'est une puissance d'union dans laquelle tout se rallie, c'est donc une convergence de milliards d'âmes de soleils humains. Sur le plan de notre histoire humaine, c'est le point de convergence pour des milliards d'âmes qui, à des degrés divers, construisent un triangle équilatéral dont Neptune marque le sommet. Puissance de polarisation supérieure, puissance de polarisation dans le sens des mondes supérieurs de création et de manifestation divine, c'est une purification formidable de tout ce qui est contradictoire, trouble, est dans le scorpion. Puisque le scorpion représente une balance, mais la balance divine, vous voyez que Neptune est là, faisant monter l'un des plateaux de la balance et invitant ceux qui sont capables, donnant accès à ce plateau de la balance. Alors que Pluton, comme nous le montre l'imagerie médiévale sur les bas-reliefs de nos églises, de nos cathédrales, Pluton, au contraire, retient les êtres sur l'autre plateau de la balance, en dessous. Pourquoi fait-il ça? C'est très simple, mes amis. C'est très simple. Le problème essentiel de notre espèce, c'est la capacité, et c'est ça qui a fait l'espèce, c'est ça qui a fait la dimension humaine. Et cela, nous le devons à Saturne. Le problème essentiel de notre espèce, c'est de se déidentifier de son objet. Vous comprenez, être humain, c'est pouvoir distinguer le sujet de l'objet. C'est pouvoir dire, il y a moi et il y a toi, mais il y a moi, et je ne suis pas toi. C'est donc une déidentification. Car le problème de ce qu'on appellerait le mal est un problème d'infériorité de l'état évolutif, par quoi l'homme ne peut pas distinguer qu'il est un individu par rapport à d'autres choses qui sont aussi des individus. L'homme ne devient conscient qu'il est un individu avec sa juridiction propre, son domaine et ses droits et ses responsabilités qu'à la condition qu'il se distingue de ce qui l'entoure, et qu'il donne un nom, comme Adam l'a donné dans la Bible, à tout ce qui était autour de lui. Pensez, quand Adam a donné un nom au monde, comme le monde dans la Genèse, c'était pour marquer précisément, il y a moi et il y a toi, et il y a le rapport entre nous deux. Or, il n'y a pas d'intelligence, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de mercure sans un rapport. Et en rapport, il n'y en a pas tant qu'il y a identification. Le problème du mal, c'est le problème du manque de rapport. Fondamentalement, c'est ça. Réinstituer la possibilité du rapport, c'est donc faire la distinction. Et la distinction, c'est créer l'intelligence. Il n'existe pas qu'il y a contraste. Bon, j'ai bien ça. L'intelligence est une fonction de rapport entre ce qui est fixe et ce qui est mouvant. Alors, il est naturel que Pluton représente tout ce qui peut être encore resté dans l'identification, c'est-à-dire là où il n'y a pas de rapport, c'est-à-dire là où il n'y a pas d'intelligence. Par conséquent, nous voyons dans l'exercice de Pluton dans le scorpion, nous voyons qu'il retient les êtres qui n'ont pas encore assez d'équilibre pour distinguer leur faiblesse de leur force et qui restent tout naturellement dans une tendance partialisante, toute subjective, d'identifier. Pluton cherche à les maintenir encore par sa puissance d'inertie dans l'identification avec leur particulière faiblesse ou leur particulière perfidie, si vous voulez, ou leur tendance particulière. Rester sur une tendance particulière sans se rendre compte de ce que c'est, même quand elle est bonne, ça n'est pas être vraiment normalement humain. C'est être un automate. C'est être un possédé. La dépossession Voilà ce que n'est plus la forme suprême. Devenir humain, c'est devenir un dépossédé de toute puissance qui nous identifie à notre milieu, de manière à ce qu'on ne s'en distingue pas et qu'on est parfaitement abruti par lui. Vraiment abruti par lui. Cette déidentification, Saturne en est le grand architecte, mais il le fait pour Neptune. Et Neptune vient donner le couronnement à ça, puisqu'il ne permet qu'aux adultes parfaitement déidentifiés d'entrer dans le paradis, dont Saturne garde la porte. Voilà pour la fonction de Pluton dans le Scorpion, par contraste avec celle de Neptune. C'est donc vous dire, en passant, que c'est une erreur absolument tragique de penser que Pluton peut être maître, le maître du Scorpion. C'est impossible d'être le maître du Scorpion. Sa méprise est dans les poissons, ça, vous le verrez dans le livre que nous allons sortir, et dans un autre spécial sur le sujet. Les poissons, c'est un des signes les moins connus des astrologues. Et quand on analyse, vous voyez, on a confondu